When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans ce nouvel épisode de So Sweet Planet, je reçois Mathieu Deslongchamps pour parler de son premier album. Je te laisse prononcer, Mathieu.
Vivo en Panama.
Qui sort le 26 mars chez Polydor, un très bel album, riche, dense, ouvert, un album de voyage, à la fois nostalgique et en mouvement, plein de couleurs, des titres qui invitent à vagabonder, une musique dans laquelle on se laisse glisser avec volupté, en tout cas c'est mon expérience, un son à la fois mat, brut et soyeux aussi, c'est très harmonieux, ça fait du bien, et surtout en ce moment ça fait du bien d'avoir de la bonne musique douce et rythmée en même temps qui donne envie de bouger. Et la sortie de cet album est accompagnée d'un documentaire, donc on va parler de tout ça. Bienvenue Mathieu Deslongchamps sur So Sweet Planet.
Ben merci de me recevoir, je suis ravi d'être là. Et merci pour cette introduction, je peux repartir en paix là.
Non, attends un petit peu. On va, si tu veux bien, refaire un petit peu ton parcours. Du coup, on comprend bien après de où vient l'album, de où vient cette musique et cette ouverture que l'on ressent en l'écoutant. Déjà, tu es né à Montréal, c'est ça?
Oui, tout à fait. Oui, c'est ça.
J'ai toujours un petit faible pour toute la musique qui vient de cette partie de la planète.
Vrai.
Oui, je trouve que même en chanson francophone, il y a quelque chose de différent dans
c'est
la
vrai.
Façon de créer musicalement.
C'est vrai.
Au Québec, tu as grandi, vécu et voyagé entre le Québec, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Argentine, l'Uruguay, mais surtout le Panama, où tu as vécu enfant avec tes parents dans une cabane sur pilotis, isolé de tout, tu dis un cocon fébrile tenant presque à rien, entre jungle et océan. Est-ce que tu peux nous décrire un peu cet endroit qui est le début, ton début apparemment?
Alors cet endroit, c'est une cabane en bambou. Donc les bambous, comme c'est droit, mais c'est pas complètement droit, ça fait qu'il y a des petites... on voit passer la lumière qui passe à travers les bambous, exactement. Et en fait, c'est une cabane sur pilotis, donc elle est au bord de l'eau. Et derrière, il y a une montagne, et puis il y a des montagnes qui s'enchaînent, de jungle, vraiment. Donc je le dis souvent, on était vraiment entre la jungle et l'océan. Donc c'était une grande chance, on pouvait passer de ce monde merveilleux qu'est la jungle. Enfin moi, ça m'a fasciné quand j'étais petit, et ça me fascine toujours, à la mer, à tout ce qu'a la mer, et les Caraïbes. Et donc voilà, on avait la jungle derrière, la mer devant. Et on dit, en fait, il y avait la Guaira, qui est ce tout petit village qui était à côté. Et depuis la Guaira, on marchait encore 10 minutes un peu à travers un sentier, la jungle ou en longeant la mer. Et on débouchait dans cette baie qui était isolée. Et il y avait une petite, comment on appelle ça déjà, bref, petite avancée, une petite poussée de la terre au milieu de la baie.
Une petite presqu'île.
Exactement, où il y avait un petit courant d'air qui arrivait parfaitement. Et voilà, c'est là que mon père a fait cette cabane. Donc on avait ce petit courant d'air qui faisait qu'on était aux Caraïbes sans jamais transpirer. Et voilà.
Et c'est indiscret de te demander comment vous avez atterri là ?
Non, alors en fait, c'est mon grand-père, pour tout te dire. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai raconté très souvent ça. Mon grand-père, en fait, était diplomate. Et à un moment, il est parti en mission. Il a été ambassadeur de France au Panama. Et mon père, à l'époque, qui était plus grand, qui vivait plus avec ses parents, qui était en vadrouille et qui est musicien, mon père, qui joue de la harpe paraguayenne. C'était les années 70, donc il a fait la belle vie. Il jouait beaucoup à New York, dans la rue, au Québec, où il a rencontré ma mère. Et puis un jour, il a été visiter son père entre deux voyages. Mm-hmm. Et arrivé à Panama City, il a décidé de partir en expédition avec des mecs qu'il a rencontrés là-bas à Panama. Et ils ont longé les côtes, ils ont pris un Zodiac et puis ils ont commencé à longer les côtes. À l'époque, la route s'arrêtait assez rapidement, il fallait longer la côte. Et il est arrivé dans cette baie, en fait, à La Guaira, dans ce petit village. Et là, il a eu un choc. Et il est retourné en ville, et puis ça lui a trotté dans la tête pendant des semaines et des mois, je crois. Il m'a raconté qu'en arrivant à La Guaira la première fois, il a dit à un villageois qui était là, il lui a dit « Waouh, vous vous rendez pas compte la chance que vous avez d'être là ». Et le mec, qui est devenu un grand ami à lui après, qui s'appelait Filio, lui a dit « Mais c'est rien, t'as qu'à venir, moi je te l'ai fait, ta cabane, tu peux vivre ici ». Et mon père donc est reparti avec ça, il me dit ça m'a travaillé. Mm-hmm. Et je suis retourné dans cet endroit, et il s'est fait une cabane, il a fini par vivre là. Ensuite, mon grand-père est parti, et mon père est resté là, quoi. Voilà.
Et du coup, quand il a rencontré ta mère, il avait déjà cette cabane ?
Alors, en fait, il est resté là, c'est-à-dire il vivait 8 mois par an au Panama,
ah oui,
dans sa cabane. Et puis, quand l'été arrivait, il repartait avec sa harpe, et il allait au Québec et à New York, et il jouait à New York et au Québec, il faisait la belle vie. Il me racontait que l'harpe, c'est un instrument qui est tellement impressionnant. En tout cas, l'harpe paraguayenne, c'est très, très méconnu. Et puis, c'est assez impressionnant parce que c'est un son assez clinquant, c'est très rythmé, c'est mélodique, enfin, c'est très beau. Mm-hmm. Et c'est très méconnu. Donc, il me disait, je m'asseyais dans la rue à New York, rien que j'accordais ma harpe, il y avait déjà 20 personnes autour qui attendaient. Et il dit, j'ai vécu comme un roi, comme ça. Bon, après, il a joué aussi dans des boîtes et des... Et il a fait des spectacles, etc. Mais voilà. Et du coup, il faisait des allers-retours. Voilà, c'est ça. Il était au Panama. Il passait 8 mois. Et puis, quand arrivait l'été en Amérique du Nord, il allait là-bas. Il jouait. Et puis, il retournait au Panama 8 mois dans sa cabane. Et pendant les allers-retours, il a rencontré ma mère au Québec. Ma mère qui chantait de la folk, qui est québécoise, mais qui a vécu sa petite enfance aux États-Unis. Et donc, il a commencé à faire les allers-retours avec elle. Voilà.
C'est pour ça que tu es né à Montréal, mais que en fait, tu t'es retrouvé dans la cabane,
exactement,
dans la baie.
J'ai une grande sœur qui est née au Panama, en fait, et qu'ils ont trimballé avec eux, de droite à gauche. Et puis ensuite, moi, pendant ces allers-retours. Et puis ça a continué comme ça un peu. Et puis après, on a dû aller se poser en France, parce que la vie.
Pour toi, le Panama, puisque c'est le titre aussi de ton album, est-ce que ce sont que des bons souvenirs ? Est-ce qu'il y a une idée de paradis perdu ? Est-ce que c'est parce que c'est lié à l'enfance ? Parce qu'en fait, la plupart des titres de cet album sont nourris de cet endroit-là.
Bien sûr. Bah, évidemment, c'est-à-dire que c'est à la fois l'enfance, une enfance plus heureuse, en tout cas là-bas, c'est sûr. Et puis, comme l'endroit était paradisiaque en soi, c'est un double paradis perdu. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup... moi-même, j'étais surpris en grandissant de voir que j'avais été fait de ça, en fait, beaucoup, quoi. Même si je suis parti finalement assez jeune. Ensuite, on a commencé à rentrer en France, on faisait un peu d'aller-retour, mais ça s'est étiolé. Et je me suis rendu compte des années plus tard, un jour où j'étais en Italie, la vie était un peu dure, bref, des épreuves personnelles assez difficiles. J'étais un peu loin de tout et de tout le monde. Et bizarrement, m'est venue, bah d'ailleurs, la chanson « Vivo en Panama », je l'ai faite en Italie, alors que plus rien ne me rattachait au Panama, que ça faisait des années que j'étais pas retourné. Et bizarrement, Panama m'est venu très fort et j'ai fait cette chanson alors que c'était le moment où j'étais le plus loin de Panama dans ma vie, quoi.
Oui.
J'ai réalisé qu'on est fait de la petite enfance et voilà, ça m'a marqué. Et puis, il y a vraiment un sentiment d'amour aussi pour ce pays, pour La Guaira, pour cette côte. Et la nécessité, en fait, de lui rendre hommage, quoi, de l'écrire quelque part, de marquer le coup. Mais c'est venu naturellement. Exactement, ouais. Peut-être pour pas que ça disparaisse, un peu moins.
Donc le Panama, ça se situe entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, entre le Costa Rica et la Colombie. J'ai regardé, hein, parce que je savais pas trop.
Oui, non, mais c'est normal.
Est-ce que tu t'es intéressé un peu à la région, ou vraiment c'est que l'endroit où toi tu es né?
Alors, malheureusement, mon père, il a un côté, c'est drôle, à la fois il a beaucoup voyagé et en même temps il a un côté paradoxalement très pépère. Une fois qu'il a trouvé son endroit, il n'y bouge plus.
Ah oui.
C'est pas du tout le gars, bon, les enfants, on va aller là, on va découvrir ça, je vais vous montrer ça. Non, il est content dans sa petite baie. Et donc en fait, c'est ce que j'explique souvent, j'étais au Panama il y a un an et puis bref, je racontais ça un peu, j'ai eu quelques interviews là-bas où j'expliquais aux Panaméens eux-mêmes que ma vision du Panama jusqu'il y a peu, pour moi le Panama... C'était la Guaira, c'est la jungle, les animaux sauvages, la pêche. C'est un Panama noir, parce que les gens sont noirs sur la côte, vraiment, il y a un côté africain. Et pour moi, c'était ça, Panama. Et j'avais toujours du mal à comprendre qu'il y ait une grande ville à Panama, qu'il y ait des gens qui travaillent, qu'il y ait beaucoup de blancs aussi, parce qu'il y en a plus en ville. Donc voilà, Panama, pour moi, c'était ça. C'est vraiment le paradis perdu, parce que ça se résume à cette vision-là, quoi. Donc j'ai pas énormément... connu. En fait, j'y suis retourné il y a 3 ans et là, j'ai fait un voyage pour la première fois où j'ai été un peu explorer le Panama et j'ai découvert, en plus de ça, toute la richesse qu'avait ce pays. C'est un pays très multiculturel, où il y a beaucoup d'ethnies indiennes, il y a les descendants des esclaves, donc dans la région où moi j'ai vécu petit, où il y a ce côté africain, c'est la région de Colomb. Et puis il y a les Cholos qui sont les descendants des Blancs de l'époque, qui sont plus ceux qui ont cultivé la terre et tout ça, qui ont aussi leur culture à eux. Et puis surtout, il y a beaucoup, voilà, il y a des montagnes, il y a de l'altitude, donc le climat change. Enfin bref, c'est un pays très très riche. Voilà. Mais à part ça, c'est vrai que j'ai pas beaucoup bougé dans le coin. J'ai été à Carthagène un jour par hasard, parce que je passais en bateau en Colombie, mais c'est tout. C'est vraiment Panama, c'est Panama.
Colomb, vous y allez dans le documentaire, oui, et tu dis justement que les Panaméens eux-mêmes ne peuvent pas y aller.
Ben, c'est-à-dire que c'est en tout cas là où j'étais à ce moment-là. Même Colomb d'ailleurs, après ça dépend évidemment, mais c'est une ville malheureusement assez pauvre et assez dangereuse. Il y a beaucoup de délinquance, il y a des gangs et tout ça. Et dans l'endroit où j'étais là en l'occurrence... Alors malheureusement, il y a quelques années, ils ont commencé à faire une politique où ils ont déplacé toutes les populations pour leur créer des nouveaux immeubles, etc., en dehors de Colomb. Donc moi, mon pote là-bas qui s'appelle Ruben et les copains de là-bas, eux, ils sont ravis parce qu'ils ont des nouveaux apparts, ils trouvent ça génial. Moi, je trouve ça assez triste parce que je pense qu'ils ne réalisent pas encore qu'en fait, on les a parqués dans des banlieues alors que jusqu'ici, ils étaient dans un centre-ville et qui faisaient partie de la vie de Colomb. Et au lieu de renouveler leurs conditions de vie là où ils étaient, en fait, comme d'habitude, on les a sortis. Et là, donc, dans ce nouvel endroit, là, on a vraiment le ghetto du ghetto. Ils sont tous là. Et la violence est presque plus exacerbée parce qu'ils sont ils sont plus les uns sur les autres. Et là, en l'occurrence, effectivement, si t'es pas de Colomb et que tu viens pas et que t'as pas quelqu'un là-bas, personne n'a l'idée d'y aller, quoi. C'est vraiment le ghetto, quoi.
Alors donc là, le voyage dont on parle, c'est en janvier 2020, où tu es retourné, donc sac au dos, avec un copain qui a tourné des images qui ont donné ce documentaire donc, sur votre expédition, à tous les deux. Comment ça s'est décidé, ce voyage? C'était lié à l'album? Tu comptais écrire des titres là-bas, ou tu avais déjà tous tes titres avant de partir? Comment ça s'est imbriqué, en fait?
Alors en fait, j'avais tous mes titres, l'album était fait, et puis j'avais cette idée... J'avais, 2 ans auparavant, j'avais fait Paris-Cadaquès en van avec un copain. C'était un petit road trip comme ça, sympa, parce que Cadaquès, c'est un autre fief, une autre planque.
Il y a ta grand-mère.
Exactement.
Il y avait ta grand-mère, oui.
Enfin, où il y avait ma grand-mère, mais il y a la maison de ma grand-mère toujours. Mm-hmm. Et puis, et je me suis dit, waouh, ce serait extraordinaire de refaire un road trip, mais cette fois à la grande, c'est-à-dire version, comme j'en rêve, au Panama. Et puis l'idée a germé dans ma tête. Et je me suis même dit, mais en fait, au lieu même de faire un road trip, carrément faire une expédition, parce que ça, c'est mon rêve d'enfant. J'ai une attirance très très forte pour l'aventure, les expéditions, les explorateurs, c'est un truc très fort en moi. Et je me suis dit, waouh, en fait, ce serait extraordinaire de retourner à La Guaira en faisant une expédition, en passant que par la nature, comme si je découvrais cette baie, en fait, me refaire un voyage pour la redécouvrir. Voilà, et j'ai la chance d'avoir une super manageuse. Isabelle Vaudet, qui d'une idée qui est dans ma tête, auquel je ne crois pas trop, finalement elle en fait quelque chose de réel, elle, et puis Chloé Baudouin qui est avec elle, qui a mis tout ça en place, et finalement ce rêve est devenu réalité. Et donc je suis retourné là-bas, et puis tout simplement l'idée c'était voilà, retourner à La Guaira et de faire mes chansons sur le chemin, et vivre ce rêve de gosse.
Et tu ne l'avais jamais fait avant?
Non, parce qu'on arrivait à La Guaira, enfin à Panama, et puis on partait directement à La Guaira. La route a fini par se faire, etc. Et puis on arrivait dans notre baie, on restait là. Alors...
Non, mais je veux dire, l'aventure comme ça, comme tu dis, dont tu rêvais, ça aurait pu être ailleurs aussi, quoi, mais de partir...
J'ai fait d'autres aventures assez extrêmes. Extrêmes, notamment, une des grandes aventures de ma vie, c'est en Uruguay, quand j'avais 19 ans, où j'ai traversé le pays pendant 2 mois et demi, presque 3, sans argent, sans bagages, sans rien, fait vraiment avec les habits que j'avais sur moi. Et j'ai avancé comme ça. Et j'étais avec un copain. En fait, on n'avait rien au départ, presque rien. Et le presque rien qu'on avait, on se l'est fait voler. Donc, on a vécu, voilà. Mais une expédition comme ça dans la nature, sous les tropiques, paradoxalement, non. Puisque à Panama, on restait dans notre baie, dans la cabane. Alors, on allait un peu dans la jungle et tout, on se baladait. Mais jamais j'étais parti d'un point A à un point B pour retourner à La Guaira.
Là, c'était une première, cette expédition-là.
Oui.
D'accord.
Oui.
Mais on sent quand même, quand tu pars, que tu as déjà fait ce genre
bien
de
sûr,
trip.
Bien sûr,
parce que ce serait impossible autrement. Faut
bien
quand
sûr,
même un peu
bien
de...
sûr. Et ça m'a beaucoup... Ça m'a beaucoup manqué ces dernières années parce que j'avais pas pu repartir comme ça. Mais bien sûr, c'est un rêve... ma vie a changé, j'ai eu un enfant entre-temps, et du coup, et puis la musique, il y a un moment où il faut arrêter de jouer sur les routes, il faut aussi construire quelque chose, donc voilà.
Alors justement, la musique, j'aimerais qu'on rentre un peu plus maintenant bien dans sûr. Ce sujet-là, parce que déjà quand même, avant de rentrer sur la partie formation et tout ça, dans les différents pays dans lesquels tu as séjourné, puisque justement l'Argentine, l'Uruguay, il y avait toujours la musique quand même qui était là, qu'est-ce que tu gardes musicalement de tous ces... endroits-là, est-ce que tu jouais là-bas avec des groupes locaux est-ce que tu as...
Là-bas, j'ai joué un peu en Argentine. Je faisais une école de musique.
Oui, voilà.
En théorie de jazz, que oui. J'avais commencé à Paris. Et puis finalement, très vite, une fois sur place, j'ai commencé à bifurquer, à m'intéresser plus au folklore. Mm-hmm. Moi, j'ai beaucoup été bercé par la musique sud-américaine, parce que mes parents faisaient que ça, en fait. Enfin, ma mère était chanteuse de folk au départ, et puis elle a fini par chanter en espagnol, puisqu'elle a vécu au Panama, etc. Donc il y a eu beaucoup de ça chez moi, c'est une musique qui me touche évidemment, enfin c'est une musique avec laquelle je me suis construit aussi. Et du coup, une fois en Argentine, j'ai vite commencé à étudier le tango, le folklore aussi. Et puis c'est des rencontres aussi qui nous marquent. Et pendant ce voyage en Uruguay, j'ai fait tout ce voyage donc avec un copain et un troisième larron qu'on a rencontré au bout de 15 jours. Un mec extraordinaire qui était aussi complètement farfelu, c'était un mec tout seul avec un sac à dos presque en slip et en t-shirt
qui était uruguayen
et qui était en vadrouille dans son propre pays et qui jouait du tuba. C'était drôle parce qu'il avait un énorme tuba qu'il avait sous le bras sans housse et il se baladait tout seul avec son tuba. Or avec un tuba seul on peut rien faire, c'est comme
Oui, pour jouer dans la rue, c'est
voilà, c'est une basse géniale, mais il faut une fanfare, il faut au moins un groupe. Et il était tout seul avec son tuba, et du coup, on l'a fait jouer avec nous, et là, ça a été la folie quand on avait cette basse. Bref, sauf qu'en fait, ce gars-là, Christian, quelques jours après l'avoir rencontré, qu'on a commencé à jouer ensemble, un jour, il prend ma guitare sans nous prévenir, et il commence à jouer un tango, les larmes sont venues. C'était un grand chanteur, enfin, ça l'est toujours. Et en fait, c'était un grand chanteur de tango. Et donc, lui, sa façon de chanter le tango et tout ça m'a beaucoup marqué et touché. Et du coup, j'ai pris ça de lui aussi. Et c'est drôle, c'est plus après, en rentrant de l'Uruguay, même après l'Argentine, en rentrant à Paris, que ça a germé en moi et que j'ai commencé à travailler des tangos et même à travailler deux des tangos qui jouaient pendant tout le voyage. Donc oui, de l'Argentine et de l'Uruguay, il me reste le folklore que j'aime beaucoup. Mais finalement, presque plus le tango, et notamment grâce à ce Christian Medina.
Et alors, si on remonte un petit peu dans le temps, j'ai lu un passage dans ta bio sur lequel j'aimerais qu'on revienne, qui dit « À 16 ans, Mathieu décide d'arrêter les études. Après les vacances de Noël, je sors du métro, le soleil d'hiver qui pénètre les escaliers, j'écoutais Jeff Buckley, j'étais en seconde, je suis rentrée dans le lycée, jusqu'au bureau de la directrice, j'ai enlevé mes écouteurs et je lui ai dit « Madame, j'arrête. » Qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé, très concrètement, il s'est passé que j'étais au lycée La Fontaine, qui est un lycée d'horaires aménagés pour les musiciens. Donc au départ, quand j'ai réussi à rentrer dans ce lycée, j'étais hyper heureux. C'était le truc parfait, tu vas en cours le matin et l'après-midi, tu travailles ta musique. Sauf que je me suis rapidement rendu compte, au début, je ne le savais pas, et puis j'ai compris après qu'en fait, au bac, on nous imposait une œuvre en l'occurrence classique dans mon cas. C'est un cursus classique. Et que donc, il fallait que je travaille la guitare classique à fond et que je me mette là-dedans. Et je jouais de la guitare classique, j'aimais ça, mais ce n'était pas ma priorité.
Oui, pas assez.
Voilà, pas assez. Et du coup, je me suis retrouvé dans cette problématique et j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé d'arrêter. Et effectivement, il y a eu ce jour assez fort et marquant de ma vie parce que l'école, ça n'a jamais été mon fort. Ce moment où t'arrêtes, quoi, où l'école, c'est fini. C'est un moment assez fort et j'ai...
Et du coup, tu as décidé ça tout seul, comme ça?
Alors,
c'est
j'ai
en
décidé
deux
ça
minutes,
tout seul. Enfin, j'ai décidé ça, oui. Sauf que beaucoup de gens sont surpris. Ils disent, mais tes parents. En fait, mes parents, il faut savoir qu'ils sont musiciens tous les deux. C'est un peu quand même des... Ils ont vécu la bohème. Enfin, ils ont vécu à Panama les pieds dans l'eau. Donc, on n'est pas dans le cadre très classique des parents.
Qui veulent que tu restes sur les rails.
Exactement. Et du coup, ils ne m'ont pas mis de barrière. Mon père, qui est un peu un grand enfant... Était presque content que je fasse que de la musique.
Ah oui.
C'est plus mes grands-parents qui étaient choqués. Ouais. Et puis mon entourage, je me souviens d'une copine au téléphone, je me souviens de lui raconter ça et qui me dit mais tu te rends pas compte et si jamais tu changes d'idée quoi, tu vois. Et ça m'a pas, je dis non mais je changerai pas d'idée. Enfin tu vois, c'était ma seule réponse. Voilà. Et du coup j'ai fait ma petite lettre signée par ma mère. Et puis la directrice m'a pas vachement retenu hein, entre nous. Hein.
Ah oui.
Elle dit va très bien, bonne route. Ouais. Et puis c'était assez émouvant parce qu'en sortant du bureau, j'ai descendu tous ces escaliers qui étaient en marbre, en colimaçon, assez beau, le décor était beau, la lumière passait à travers les fenêtres et j'écoutais toujours Jeff Buckley. J'ai tout de suite remis les écouteurs en sortant. J'aimais bien scénariser mais les moments importants de ma vie quand j'étais ado, je le faisais beaucoup avec la musique et j'ai. Et du coup, je me suis remis les écouteurs et j'ai descendu tous ces escaliers en écoutant. Et puis, je me suis poussé cette grande porte du lycée avec la lumière. Et c'était, pour moi, c'était un grand. Et là, il y avait tous les copains de la classe qui m'attendaient assis sur la barrière pour me dire au revoir. C'était émouvant. C'était
un bon moment. C'est presque un clip.
Oui, c'est vrai. Je devrais le faire.
On voit bien que le documentaire, c'est le prolongement, en fait.
C'est ça.
De ça, de mettre ta vie en musique,
ouais.
et de la musique sur ta vie, apparemment aussi. Donc, à 17 ans, tu intègres l'American School of Modern Music de Paris.
Oui.
Et c'est cette même école que tu vas continuer après en Argentine, c'est ça ?
Voilà. Sauf que, bon, pour le détail, en arrivant en Argentine, ils ont rompu le contrat et c'était... Et puis d'ailleurs, j'ai fait de la musique, du folklore, etc. Mmh. Mais oui, c'était la continuité de cette école, effectivement.
D'accord. Et ton instrument, ça a toujours été la guitare ou il y a d'autres... Parce qu'apparemment, tu joues d'autres instruments.
Non,
aussi.
Justement, j'ai découvert la guitare assez tard. Et j'ai fait de l'harpe petit avec mon père.
Mmh.
Et surtout, mes parents m'ont inscrit au conservatoire en percussion classique. Donc, percussion classique, ça comprend beaucoup d'instruments, la caisse claire, le marimba, le vibraphone, les timbales, bref, c'est très complet. Et donc, j'ai fait 6 ans au conservatoire de percussion classique, avec le cursus du conservatoire, ça veut dire la chorale, le solfège, tout le tralala. Et bon, ça m'a pas mal formé. Et puis voilà, j'ai arrêté pareil les percussions. Alors, en fait, j'ai fait de l'harpe, donc des percussions. Et en parallèle, au bout de ma 6e année de percussion, j'ai découvert la guitare. Et ce qui est drôle, c'est que la guitare, c'était la première chose que j'aurais dû découvrir. En réalité, il y avait mes deux parents jouent de la guitare. Il y avait toujours 2 ou 3 guitares dans le salon qui traînaient sur les canapés partout.
Oui.
Et en fait, je suis toujours passé à côté. Et j'ai ce côté assez absolutiste, en fait, très extrême. Et vers 12, 13, 14 ans, j'ai vu les guitares et je me suis dit, de toute façon, la guitare, je ne peux pas en faire, c'est trop tard. Je me disais, alors que j'avais 13 ans. Mais dans ma tête, ça fait partie de ces instruments majeurs que si tu ne commences pas à 5 ans, c'est foutu.
Ah oui.
Quoi. Donc, j'ai toujours mis ça de côté. Et bizarrement, il a fallu qu'un copain, le classique au collège à 15 ans, qui jouait du Nirvana, me donne envie d'en jouer. Je retourne chez moi, je commence à en jouer. Mes parents me montrent des accords. Et là, c'est la révélation. En quelques mois, ça a été... Et ce qui est drôle, c'est que j'ai fait beaucoup d'autres instruments sans jamais avoir la conviction, sans jamais avoir un vrai coup de foudre, en me disant je serais musicien pour faire comme papa-maman, mais en fait, j'avais pas. Et la guitare, là, ça a été le coup de foudre très fort et j'ai voulu faire que de la guitare. Et d'ailleurs, j'ai arrêté les cours pour faire que de la guitare et être guitariste. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'écrivais pas de chansons, je travaillais que l'instrument. Voilà, je voulais être instrumentiste, guitariste, soliste.
Ah, soliste. Enfin, oui. Tu voulais pas jouer pour d'autres ou jouer dans un groupe
Non, mon idéal, c'était... Je pense que j'avais déjà... Enfin, j'avais de l'ambition, je rêvais d'être un guitariste. J'avais des modèles de guitaristes comme ça. Notamment, je pense à un ami de mes parents qui s'appelle Pierre Bensuzan, qui est un très grand guitariste de folk, reconnu mondialement, qui était un ami de la famille et je l'admirais beaucoup. Je rêvais d'être un guitariste comme lui, par exemple. Et lui, il joue tout seul. C'est vraiment soliste dans le sens...
Ah oui, mais on comprend mieux que tu trouvais que c'était trop tard à 12 ans.
Voilà, j'avais ces grands modèles.
Si tu avais ça dans ton salon, ça freine un peu les ambitions.
Un peu, c'est vrai.
Mais en fait, finalement, non.
Finalement, non, parce que...
Tu y
allais. Parce que c'est bête, on peut commencer tard. Wes Montgomery, qui est un grand guitariste de jazz, apparemment, aurait commencé à 20 ans, 21 ans. Ça paraît très tard. Hein. Mais bon, c'est peut-être un mythe, mais on raconte ça.
Ouais.
Et puis surtout, à 15 ans, on a toute l'énergie qu'il faut. Et si on a la passion, et puis si on travaille... Et puis j'ai rencontré une autre personne qui était très importante pour moi, qui s'appelle Mathias Duplessis, qui est un excellent musicien, un compositeur, un guitariste, enfin qui... c'est mon prof particulier, il est venu à la maison au bout de quelques mois où j'apprenais tout seul. Et lui, ça a été une claque énorme de le rencontrer, et il avait cette énergie. Il me disait, mais bien sûr que tu peux être guitariste, mais regarde comment... Enfin, il était très optimiste, puis il mettait des coups de pression à chaque cours. Il me disait, mais tu bosses ou pas? Alors, tu vas être guitariste. Et voilà, ça a été un peu la révélation aussi.
C'était le bon coach pour toi.
Exactement.
D'accord. Donc après ça, tu rentres à Paris, tu repars t'isoler 6 mois, donc en Espagne, on en parlait tout à l'heure, à Cadaquès dans la maison de ta grand-mère, tu commences à écrire des chansons. Mmh. Tu étais parti pour y écrire des chansons. À ce moment-là, ça devient clair dans ta tête, tu veux chanter.
À ce moment-là, oui, c'est la première fois que c'est devenu clair. En fait, c'était au retour de l'Argentine. J'ai commencé à faire une chanson ou deux, je crois, en Argentine. Et puis, en revenant de l'Argentine, bah, j'avais fini cette année d'études. Je ne me voyais pas continuer les études de jazz et tout ça. Et je me disais, en fait, il faut que je fasse ma musique. Enfin, j'en avais déjà la conviction, le besoin. Et du coup, en revenant en France, je me suis dit, il faut que je trouve un endroit, que je m'isole et que j'écrive des chansons. Et je suis parti voilà, dans cette maison de famille à Cadaquès, qui est une maison assez extraordinaire qu'on a la chance d'avoir, qui est au bord d'une falaise, qui surplombe la mer, un peu comme à Panama, c'est drôle, mais dans le style méditerranéen. Elle est plus haute, elle est au bord de la falaise, donc on est plus en hauteur, mais on entend les vagues qui cassent sous la maison de la même façon. Et puis il y a ce côté un peu, il y a beaucoup de tramontagnes là-bas, et en hiver c'est assez austère. Le vent souffle très 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 fort, t'as l'impression que la maison va s'arracher et qu'on va finir dans la mer. Mmh. Et en hiver, c'est mystique d'être là-bas. J'en garde un très beau souvenir. Et on était deux. Il y avait moi et mon beau-frère qui est dessinateur. Et on était comme une espèce de deux ermites. Lui, il avait de la barbe. Moi, j'en avais pas. J'en ai toujours pas beaucoup aujourd'hui, malheureusement. Et voilà. Et moi, j'écrivais mes chansons toute la journée. Lui, il faisait ses dessins. Et puis le soir, on se retrouvait. Le chauffage était souvent cassé. On avait 12 pulls et 2 bonnets. Et on avait 19 chats. Ça fait partie des oui, belles anecdotes. On était entouré de chats.
Et c'était un bon lieu pour l'inspiration, alors?
Oui. Ben, disons que moi, j'ai besoin de m'isoler pour écrire, pour composer. Mmh. Je pense que, en fait, surtout quand on vit en ville, il y a tellement de mouvements, de bruit, d'interactions, qu'on a du mal à puiser en nous-mêmes. Le silence est nécessaire. Et c'est difficile au milieu de la tourmente, de la grande mécanique. Et du coup, j'ai toujours ce besoin, et Cadaquès, c'était idéal. Et donc voilà, c'est inspirant, c'est sûr que c'est inspirant. Parfois, je me demande même si les lieux sont... Je me demande si l'inspiration vient tellement des lieux ou pas, parce que je me dis que finalement, ce qu'on a à dire, on l'a en nous. Et donc, c'est une question que je me pose. Je me dis, est-ce que si on m'avait enfermé dans un appart... est-ce que j'aurais fait mieux ou moins bien, je sais pas. En tout cas, j'avais la chance d'avoir cet endroit. Et ça crée des... Oui, c'est inspirant,
ambiance,
parce que forcément,
ouais, ça crée une ambiance,
ça crée des émotions qui serviront pour la suite. Donc, ouais.
Et oui. Tous tes titres ont été écrits là-bas?
Non, alors là-bas, j'ai écrit une partie des titres, mais c'était déjà il y a un moment, ça. Et d'accord. beaucoup de ces titres... En fait, j'ai fait un premier album quand j'avais 22-23 en indépendant. J'ai travaillé comme un fou dessus et j'ai pas été au bout. Je me suis essoufflé. J'ai passé trop de temps. J'ai mis trop d'économies et au final, j'ai pas réussi à aller au bout. Et c'est un peu un de mes regrets. C'est un peu mon enfant avorté, c'est cet album. Et donc, il y a beaucoup de chansons qui ont fini dans cet album, en fait. Il y en a quelques-unes qui restent de cette époque.
Il y a une continuité, oui.
Voilà, ouais.
On parle un peu du documentaire?
Avec plaisir.
Alors, donc, tu dis, ce film, c'est un peu le disque en images. C'est vrai que c'est l'impression que j'ai eue, parce que moi, j'ai d'abord écouté l'album et j'ai eu le documentaire après.
D'accord.
Quand j'ai visionné le documentaire, ben oui, on voyait bien que ça se fondait bien.
Ouais.
Donc, tu dis, ce film, c'est un peu le disque en images, une sorte d'introduction. Mon idée de départ, c'était de retourner au Panama et de me lancer dans une expédition. C'était un rêve que j'avais depuis longtemps. L'aventure, pour moi, c'est quelque chose de crucial, un rêve de gosse. C'était ça l'idée. Donc, c'est un copain qui part avec toi et qui filme, mais tu réalises, tu écris ton commentaire et donc tu enregistres ta voix off. Est-ce que tu avais déjà réalisé avant?
J'avais fait... J'ai fait mon premier clip qui s'appelle Héros Anonyme,
oui.
Avec mon téléphone portable.
Oui, comme beaucoup aujourd'hui.
Voilà.
Surtout dans la période maintenant, voilà. Ça s'accélère.
Bon, sauf qu'à l'époque, j'avais un iPhone, je sais plus quoi, qui n'était pas terrible. Et puis surtout, ce qui est drôle, c'est que je piquais l'iPhone des autres. J'étais rarement seul, j'étais avec mon petit et puis sa maman aussi. Elle avait un iPhone meilleur que le mien, et donc je lui piquais. Je suis assez fier de ça. J'ai réussi à faire un clip avec un iPhone qui n'était pas le mien, en fait. Et voilà, mais bref, ça a été ma première expérience,
oui.
Qui m'est venue naturellement. J'avais des images, je voulais les filmer. On me disait, mais attends, tu vas pas faire ça avec ton iPhone et tout, c'est foireux. Bon, finalement, j'étais au bout. Et donc voilà, on peut dire que j'ai commencé comme ça. Ensuite, j'ai fait d'autres clips aussi. J'ai réalisé les clips qu'on suivait au Panama, le plan séquence à Altos de los Lagos, qui est ce ghetto de colons. Mais j'avais jamais réalisé un petit film comme ça, un petit documentaire. J'avais jamais enregistré de voix off, tout ça était nouveau. J'avais jamais écrit de commentaires comme ça, ça m'est venu assez naturellement.
Parce que quand ça commence avec ton commentaire, ça fait très film d'auteur, et du coup je me disais, mais est-ce qu'il a suivi une formation pour faire ça, écoute, ou est-ce que c'était vraiment à l'arrache?
Non, pas du tout, c'était naturel en fait.
Bon, très bien.
En fait, de fil en aiguille, on se dit... Les choses viennent naturellement, et puis on se dit, faut que j'enregistre la voix, alors j'ai un petit zoom, oui. Le son n'est pas bien, et puis on finit par rendre le truc de mieux en mieux, en tout cas on essaie de le faire le mieux possible. Mais non, je dirais que c'est ma première, entre guillemets, réalisation un peu officielle, et d'ailleurs, ça m'a ouvert une voie. Enfin, dernièrement, j'ai réalisé un nouveau clip aussi qui sortira après l'été, avec du matos un peu plus professionnel qu'on m'a mis entre les mains, toujours grâce à ma manageuse, et j'ai remis en scène mon fils et sa cousine, bref, dans une espèce d'épopée qui pourrait être un peu la suite des Rois Anonymes, et cette fois avec du matos plus pro et tout ça, et c'est comme si je passais des étapes, mais voilà, c'est une nouvelle voie presque qui s'ouvre à moi, j'aimerais vraiment persévérer là-dedans.
Oui, c'est ça que je voulais demander, c'est quelque chose que tu aurais envie de développer en
d'autres
formes d'expression aussi.
Vraiment, et puis en fait c'est drôle, ça me rappelle un peu la guitare, c'est-à-dire que j'ai toujours eu des images très cinématographiques quand j'écoutais des chansons, ton Walkman,
tu nous racontais tout à l'heure. moi ça me parle aussi.
ça va.
Donc, mais ce que tu racontais tout à l'heure avec le grand escalier en marbre et tout ça, la sortie de l'école, on voit bien que t'étais déjà en train
c'est
de
ça,
mettre
en... C'est ça, j'ai toujours eu des images très cinématographiques et moi-même je me faisais mes films Et puis souvent, je me suis dit, mais en fait, je devrais faire du cinéma. En tout cas, je devrais, parce que j'avais ce truc en moi. Et puis, un peu comme la guitare, je me le suis jamais permis en me disant, mais tu vas pas t'embarquer là-dedans, quoi. Tu vois, c'est déjà assez difficile, la musique. Il y a déjà tellement de gens qui font ça et qui font mieux. Et donc, c'est toujours ce truc de se freiner. Il y a un peu cette philosophie à l'américaine de dire, ne t'interdis rien, fais tout ce qui te plaît et tout. Moi, je suis un peu... Je trouve ça un peu, bref, un peu facile. Parfois, un peu pas facile, mais je suis un peu conservateur, moi, donc je trouve tous ces trucs un peu... Et en fait, en grandissant, on s'aperçoit que non. Et puis surtout que ce qui est beau, c'est ça qui est beau, c'est que naturellement, finalement, si on se laisse aller à ce qu'on aime, et quand on se met pas de barrière, qu'on fait les choses naturellement, on s'ouvre des voies. Et puis si on a la chance d'avoir des gens qui nous poussent, qui croient en nous, plus que nous-mêmes parfois, croit en soi-même.
Oui, c'est important aussi.
Mais c'est fondamental, en fait. Ils permettent de faire passer une idée, un rêve à quelque chose de réel. Et donc voilà.
Alors, au début du documentaire, après les préparatifs et ton organisation que tu nous vantes à l'aéroport, avec ton petit sac de voyage un peu en bordel. Et en fait, ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'en écoutant l'album, donc avant de voir ça et avant d'avoir regardé les clips sur le net, l'image que j'avais, moi, c'était, je voyais un mec qui filait en skate. Je me disais, il doit faire du skate, ce mec-là, parce qu'il y a vraiment ce mouvement dans la musique, mais j'avais l'image.
Ah, c'est drôle.
Et donc, quand j'ai vu le début du documentaire, je me suis dit, en fait, c'est vraiment ça. C'est très cohérent, son univers. Et c'est drôle, parce qu'en fait, on te voit filer en skate dans l'aéroport, jusque dans l'avion.
Oui, c'est un truc que j'ai développé depuis quelques années, parce que je vis entre Paris et Milan. Et en fait, le jour où j'ai découvert que je pouvais faire du skate dans le hall d'aéroport, déjà, c'est génial, parce que ça roule. Oui. C'est un peu l'équivalent
de la
poudreuse. Il n'y a
pas trop de monde et de bagages en plein milieu. Mais...
Non, mais on apprend à slalomer, c'est ludique aussi. C'est drôle, parce qu'on calcule le parcours des gens à l'avance. Bref. Et du coup, j'ai commencé... En fait, je vis entre les deux pays. Et le temps qu'on gagne dans un aéroport en skate... Et du coup, c'est devenu presque une manie. J'essaye de rentrer jusque dans l'avion en skate. C'est un peu comme quand on est en scout et qu'on veut essayer d'avoir tous les feux verts. Là, c'est le même truc. On essaye...
Parce que t'as juste un petit sac à dos, parce qu'avec des bagages plus...
Non, exactement. Et encore, j'ai développé le truc. Parfois, je me suis retrouvé avec des gros bagages de guitare et en skate. Et en fait, ce qui est super avec le skate, au-delà du skate dans son aspect plus général comme sport, mais le skate en soi, c'est quand on est un peu à l'aise et que... qu'on est un peu à l'aise et un peu bon, entre guillemets, enfin bon, c'est relatif, mais je veux dire, en tout cas...
On se débrouille.
C'est une seconde peau. C'est-à-dire qu'on glisse, on a de la vitesse, du mouvement, et surtout, on claque avec le pied, et hop, on a le truc dans la main.
Oui, on te voit faire.
Voilà, et on le remet sous les pieds en une seconde, et en fait, on peut l'embarquer partout, le skate. Tu prends le métro, tu vas au resto, tu le mets sous la table, et en fait, tu vas plus vite, et ta vie va plus vite. Alors parfois, c'est un peu... Ça fait défaut à la contemplation, parce qu'on trace, mais on a du mal à s'en passer. Voilà. Du coup, il m'accompagne partout.
Mais après, on ne le voit plus, par contre, quand vous êtes dans la jungle.
Alors, ça a été tout un truc, justement, la logistique de savoir... au début, je me disais, je vais peut-être devoir l'abandonner dans la jungle. Ça pourrait être beau, d'ailleurs. Et puis, finalement, non, je l'ai laissé plus tôt. J'avais ce copain, Ruben, qui est mon mon grand, grand copain de là-bas, qui l'a pris.
Oui.
Et qui a réussi à me le ramener à la fin. Donc voilà, ce skate a été sauvé.
Oui, parce qu'il faut voyager léger là quand même, quand vous avancez. Bien que tu avais préparé ton petit itinéraire sur Google Earth, et puis en fait ça ne se passe pas vraiment comme tu l'avais imaginé à Paris.
Non.
Et tu dis que le seul endroit qui n'est pas encore cartographié, c'est là où vous allez, justement. Donc l'inconnu, la découverte, se confronter à l'adversité, en fait c'était une motivation.
Oui, en général, c'est un peu le propre des expéditions, c'est de... C'est à la fois de pousser ses limites, mais plus au-delà de l'idée de pousser ses limites, qui est un peu... Enfin, si, pousser ses limites, c'est aussi vivre des émotions fortes. Et puis, la découverte, en fait, moi, c'est quelque chose qui me fascine et qui m'attire, la découverte de lieux vierges, en fait. Pouvoir s'isoler du monde en étant dans le monde, presque qu'en étant comme sur une autre planète, alors qu'en fait, on est sur la Terre, c'est assez fascinant, en fait, se retrouver dans la jungle et de se dire ici, il n'y a pas de débat politique, il n'y a pas... Il n'y a pas de prise de tête de machin, il n'y a pas de Covid, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de peine d'amour, il n'y a rien.
Ça doit te manquer, là, en ce moment,
rien.
Non
Oui, oui.
Parce que là, entre débat politique et Covid et compagnie, on est gâtés.
Exactement. Il n'y a pas de brouhaha, il n'y a que l'harmonie.
Et justement, je voulais te demander, quel est ton rapport à cette nature? Parce que tu as l'air, tu l'as quitté il y a quand même un certain temps, si j'ai bien compris, et tu as l'air toujours comme un poisson dans l'eau, dans cet univers que l'on pourrait considérer comme hostile. On te voit nager dans l'eau, à un moment il y a un crocodile, ça te fait sourire. Et alors, dans la jungle, avec généralement il y a des serpents, et j'ai vu dans ton clip Tenemos Todo, qu'en fait c'était familier pour toi, parce qu'on te voit dans des images d'archives, dans un film où t'es enfant, avec un serpent autour du cou.
Oui, au Panama c'est les tropiques, la jungle, donc il y a énormément de bêtes, de serpents, de singes, enfin tout. Et mes parents sont des amoureux des animaux, il faut savoir. Donc petit, il y a eu ce culte un peu des animaux à la maison. Donc on a vécu avec beaucoup d'animaux au Panama et même à Paris, en fait, c'est ça qui est drôle. Et au Panama, déjà, mes parents aimaient les animaux, il y avait de tout. Mon père adore les singes. Il a eu une dizaine de singes au Panama, on en a eu petit. Et on en a même eu un singe à Paris. Et puis tous les animaux qu'on a ramenés, que ce soit des perruches, des tatous et des serpents. Il y avait le grand truc du boa, parce que c'est des très beaux serpents et qui piquent pas. Et du coup, souvent, des copains en trouvaient un par terre, et du coup, ils nous le ramenaient ou ils m'en offraient un. Et on avait ces petits boas, c'est vachement beau, quoi. C'est magnifique, c'est la sensation sur ta main, c'est très, très particulier. Et je me souviens, le grand truc, c'était de mettre le... c'était de mettre le t-shirt, se rentrer le t-shirt dans le pantalon et se mettre le boa dans le t-shirt, en fait. Et puis, ils faisaient le tour comme ça du t-shirt, et on voyait le t-shirt qui bougeait comme ça avec le... Bref. Donc voilà, oui, on a été habitués petits à toutes ces bêtes, aux cafards géants, à tout.
Et tu sais repérer le danger, donc, aussi.
Oui, et
parce
puis.
Parce que dans une expérience comme ça, il peut y avoir aussi
alors après,
du danger.
Effectivement, il y a du danger, et il faut quand même être prudent. Il faut même être très prudent. Mais il y a toujours une notion de risque dans les aventures, sinon ce ne serait pas une aventure.
Voilà.
Mais c'est sûr que la nature, j'y ai été. Pas confronté, je dirais, j'étais baigné dedans, petit. Donc ça m'attire, vraiment.
Et la musique est très présente aussi dans le documentaire. Et ça donne lieu aussi, il y a des moments où toi, tu interprètes certains de tes titres qui sont sur l'album. Et puis, il y a des beaux moments de partage aussi, avec les enfants ou avec, justement, à Colonne. Et ça, c'était spontané ou il fallait les créer pour
non,
filmer ou comment
vraiment,
ça partait?
En fait, ce voyage, il a été beaucoup préparé à Paris. Et puis une fois là-bas, tout a été un peu chamboulé.
Et improvisé.
Tout a été improvisé. Ça a été un peu contre vents et marées parce qu'on devait aussi avoir... on avait trouvé pas mal de sponsors au début. Ça devait être le truc avec pas mal de moyens. Et puis finalement... tout est un peu tombé à l'eau avant de partir, à part Terre d'Aventure, que je remercie de tout cœur, et puis ma manageuse toujours, et puis l'ambassade du Panama un peu. Bref, mais au final, on est parti avec pas grand-chose. Et moi, au dernier moment, j'ai appelé ce copain Pierre Gab, qui est venu, qui est un mec super, qui est venu au dernier moment. Et donc, tout était un peu comme ça, un peu improvisé, un peu au feeling. Et puis, arrivé là-bas, l'itinéraire de base a complètement changé. Et c'est un peu l'image du voyage tel qu'il a été du début à la fin, en fait. Et je dirais même que j'avais pas pensé à mes voix off. En fait, ça s'est fait comme ça, de fil en aiguille. À Paris, j'ai vu les images, j'ai commencé à raconter ce que j'avais à l'intérieur. Et voilà, donc en fait, tous ces moments de partage, non, c'est vraiment... on n'a rien mis en scène. Ça s'est passé tel quel. Et c'est drôle parce qu'en arrivant à Paris, il y a beaucoup de moments où j'ai réalisé, je me suis dit, ouais, mais heureusement, en fait, heureusement qu'on a fait ça et ça, parce qu'en fait, si on ne l'aurait pas, ce serait dommage, quoi. Et j'ai réalisé qu'en fait, tout ça ne tenait à presque rien, quoi. Il suffisait d'un instant, d'un truc. Et j'ai réalisé que pour le prochain coup, il faut se baquer, comme on dit, il faut écrire, parce que si la magie n'est pas là, tu étais mal quand tu rentres. Mais bon, bref.
Mais là, la magie était là.
J'espère.
Oui. Ouais. Et donc, vous partez en Cayuco, c'est un genre de petit pirogue.
Oui.
Et alors, vous êtes souvent sous la pluie, hein. Vous êtes trempé jusqu'aux os. Ouais. Mais le matériel vidéo, la guitare, tout ça, ça n'a pas trop souffert.
Bah, c'est tout un truc, la pluie dans la jungle. Il y a un mec qui m'a prévenu, je me suis quand même renseigné auprès de notamment Yann Simon, qui est un spécialiste de la jungle. Mm-hmm. Parce que moi, je la connaissais comme je la connaissais petit, mais pas en tant que dans une expédition sur plusieurs jours. Et il m'avait dit, de toute façon, tu seras mouillé tout le temps, il faut le savoir, donc il faut être prêt. Et en fait, on était mouillé tout le temps parce qu'il pleut tout le temps dans la jungle. Il pleut 5 fois par jour. Donc, tu es tout le temps trempé, puis tu traverses les rivières, etc.
La nuit aussi, ça a l'air agréable.
Et la nuit, ouais, il y a une nuit, on était trempé parce que je suis furieux. Tiens, d'ailleurs, je vais passer un coup de gueule contre le vieux campeur qui m'ont vendu une bâche trop courte, en fait, par rapport au hamac. Et du coup, quand il pleuvait, les gouttes tombaient sur la corde qui tient les hamacs, et en fait, elle ruisselait le long de la corde, et elle se mettait dans le hamac, et à la fin, t'étais trempé.
Ça faisait une gouttière à l'intérieur.
Exactement. En pleine nuit, c'est horrible. Bref. Et oui, on est tout le temps trempé, mais finalement, il y a des techniques pour ça. Déjà, tous les habits sont dans un bidon étanche. Enfin, toutes les choses qui doivent être absolument secs sont dans un bidon étanche qui est dans le sac. Et puis, en fait, ça a été aussi... Il y a eu pas mal de réflexions là-dessus, avec quoi on partait, et on est parti avec un iPhone. Donc, un iPhone, un des derniers, là, qui est étanche. Et puis, on avait des espèces de sacoches étanches. Dès qu'il pleuvait vraiment trop, hop, on rangeait ça, hop, on ressortait le matos. Et la guitare, j'ai pris une guitare que j'ai achetée dans une brocante à Paris, qui, heureusement, n'avait pas trop de grande valeur, mais qui avait un petit son sympa. Et puis, je lui ai mis une housse, et je me suis dit... Ben, advienne que pourra. Et en fait, ça allait. Je la mettais dans sa housse quand il pleuvait. Il a fait un peu humide, elle a un peu souffert. Mais bon, elle était prévenue et on était parti pour ça, quoi.
Et en fait, il y a plein de beaux moments, de belles images dans ce documentaire, notamment quand tu rames au milieu de la rivière, là, avec cette végétation très dense et un ciel gris sombre sous la pluie. Et puis, il y a aussi un moment où tu fais quelques mouvements de danse classique sur un roc dans la rivière.
Oui.
Sous la pluie, toujours.
Oui, sous la pluie, toujours. Ouais.
Mais alors, le documentaire, on va pouvoir le voir quand et où ?
Alors, il sortira en même temps que l'album. C'est-à-dire, et là, gros bug, je me souviens, c'est le 26 mars.
26 mars. Si ça n'a pas changé.
26 mars. Et le documentaire, je ne sais plus ce qu'on s'est dit, mais en tout cas, c'est le jour même, le jour d'après, le jour d'avant.
Mais il sort sous quelle forme ?
Il sort, il va sortir, évidemment, sur les plateformes, YouTube, etc., dans un premier temps.
Donc, il sera accessible ?
Il sera accessible à tous.
Ah, d'accord. Ouais. Voilà, ça le...
Bien sûr.
La question. Bien sûr. Avant de terminer, j'aimerais bien qu'on parle de 3 ou 4 titres de l'album.
Bien sûr.
Chaque titre, en fait, il y a une petite épopée à chaque fois. Alors, c'est soit en voyage, soit une épopée sentimentale. Mademoiselle Tomovic, par exemple.
C'est marrant parce que souvent, les gens reviennent sur ça.
En fait, ce n'était pas la première. Ma première, j'avais la Guaira.
Oui,
on prononce comme ça.
Ouais.
En deux, j'avais la dernière, en fait. Donc, il y a 14 titres. Hein,
d'accord.
Donc, Vivo en Panama.
Oui.
Héros anonyme, parce que aussi, elle t'a suivi, je crois, depuis un petit moment,
bien
cette
sûr,
chanson-là.
Bien sûr.
Et puis Mademoiselle Tonovic, mais en fait, moi, je les aime bien toutes, donc...
Non, mais ça me va.
Tu peux partir sur celle que tu veux, en fait.
Eh ben,
pour nous parler un petit peu d'où viennent ces univers et
bien
ces
textes. Ben, Mademoiselle Tomovic, puisque tu me le demandes, c'est... Bon, très basiquement, si je voulais un résumé, c'est un coup de foudre.
Oui.
Un coup de foudre ultra puissant, ultra violent, dans un aéroport à Atlanta, aux États-Unis. Enfin, les gens savent qu'Atlanta est aux États-Unis. Atlanta... Et voilà, c'est vraiment cette sensation de Roméo quand il a vu Juliette. C'est-à-dire qu'on pense que ça n'existe pas jusqu'au jour où ça nous arrive. On dit « Ah oui, en fait, ça existe ». C'est vraiment le temps s'arrête, le monde s'arrête. On a l'impression qu'on ne savait pas ce qu'était l'amour avant. Et ce qui m'a marqué dans cette histoire... Enfin, un des souvenirs que j'ai, c'est qu'elle est arrivée de très loin, cette Mademoiselle Tomovic, dans le hall de l'aéroport. Et qu'au départ... C'était un point à l'horizon, je ne voyais pas qui c'était, c'était un point, et je ne sais pas pourquoi mes yeux fixent déjà ce point de loin, alors qu'il y avait plein de points à l'horizon.
Oui.
Moi, je fixe celui-ci, et puis finalement, il finit par se détacher, s'approcher, et en s'approchant, il devient une silhouette, une forme, une personne, Et plus il s'approche, plus c'est évident. Et pourquoi est-ce que je regarde ce point au loin déjà alors que... Voilà, est-ce que c'est le destin? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a des connexions qui se font dans l'invisible? En tout cas, c'est sûr que ça pose beaucoup de questions et que du coup, on croit en l'âme sœur et en tous ces trucs. Et puis voilà, et du coup, elle s'est approchée, elle est passée devant moi. Bref. Et puis, ce qui est drôle, c'est que En fait, ça, c'était au Panama. Et puis ensuite, on a pris l'avion. Et puis à Atlanta, on est descendu de l'avion. Et puis, elle était bien devant moi parce qu'elle était dans les premiers qui descendaient. Moi, j'étais tout à fait derrière. Et puis ensuite, on a marché.
L'aéroport, c'était au Panama.
C'était au Panama. C'était au Panama.
D'accord.
Sauf qu'à Atlanta, en descendant de l'avion, on se retrouve dans ces halls, un autre hall gigantesque où il y a des bureaux de douane. Il doit y avoir 30 bureaux de douane alignés. Il paraît que c'est un des plus grands aéroports du monde, Atlanta. Et du coup, là, tous les avions se retrouvent dans cet endroit et forcément, je la perds, quoi. C'est-à-dire que là, on se retrouve, il y a des centaines, voire peut-être des milliers de personnes. C'est un truc gigantesque. Et puis, tout le monde s'éparpille. Chacun va dans un bureau de douane. Et je me dis, et puis en plus, j'étais tout devant. Bon, c'est fini, quoi. Et puis, non, le destin fait qu'encore une fois, le miracle fait que elle était bien devant. Elle aurait dû partir. Et puis, elle a mal rempli son papier elle a mal rempli son papier. Sa feuille de suis-je terroriste? Oui. Oui. Est-ce que je veux demander aux États-Unis? Oui. Bref. Et donc, c'est une blague, évidemment.
Est-ce que je transporte de la drogue? Oui.
Oui, évidemment. Et donc, bref, elle a mal transporté son papier. Donc, ils l'ont fait revenir en arrière au moment où moi j'arrivais. Ils l'ont envoyé sur une petite table pour re-remplir son truc. Et moi, je me retrouvais sur cette table. Et c'est des toutes petites tables qui sont en hauteur, quoi, contre des piliers de l'aéroport. Et donc, on avait à peine la place pour mettre chacun notre feuille. Et puis, elle était là toute proche alors qu'elle avait été si loin. Et puis. À un moment, je retiens ce moment comme quelque chose de très fort. C'est marrant, dans ces moments-là, on a la conscience dans l'instant qu'on ne se reverra sûrement jamais et qu'il faut profiter de l'instant. Donc moi, je ne remplissais pas mon papier et je la regardais. Elle avait la tête baissée, elle remplissait son papier, je regardais ses mains et je me disais, quel moment extraordinaire.
Mais vous avez discuté
que tu connais pas,
ou jamais
Alors l'idée, c'est qu'en fait, la réalité, c'est qu'elle est partie. Elle est partie et... Moi, je commence à remplir mon papier. Enfin, j'essaye parce que j'étais trop sous le choc. Mmh. Et là, je vois un passeport à côté de cette feuille. Et je prends ce passeport et je l'ouvre. Et je vois son nom. Et donc, je la retrouve. Je lui rends le passeport. Et puis, elle me fait un sourire. Il se passe quelque chose de très fort. Et elle disparaît. Elle s'en va. Chacun s'en va. Et moi, je retiens le nom dans l'avion en rentrant à Paris. Oui. Je retiens le nom et puis je finis par mettre le nom sur Internet, le monde moderne.
Oui.
Et là, je vois sa photo et puis et là, je la reconnais. Et donc, à l'époque, je ne sais pas si je devrais tout raconter, mais je vous la fais simple. Je retiens le nom et je réussis à la retrouver et à lui écrire. Elle est 8 ou 9 lignes très concises sur ce moment Atlanta. Savoir si elle s'en souvient ou pas,
oui.
Etc. Et j'ai pas de réponse pendant un mois et demi. Je me dis, ouais, c'est.
Oui.
Et puis un mois et demi après, j'ai une réponse très surprenante. Et la suite, dans le prochain épisode. Mais voilà.
Quel suspense.
Et voilà, mais en tout cas, cette
Donc
chanson
parle
de ce moment.
Tu nous laisses en plan comme
ça. Ouais, je vous laisse en
tout,
plan.
Tout ça, vous nous racontez tout ça pour ça.
Je suis un peu dur. Non, mais il y aura une suite, je la raconterai, je crois, cette suite.
Ok.
Ça a été c'était grandiose, c'est ce que je peux vous dire. Enfin, grandiose émotionnellement et.
Oui.
Voilà, ça, c'est encore un film. J'ai de la chance, je vis souvent des films, ils sont douloureux parfois, mais en tout cas, c'était...
Belle histoire.
Ouais, belle histoire. Très
bon.
Belle histoire.
Voilà. D'accord. Un autre titre
On peut parler des héros anonymes,
oui.
Puisque tu l'évoquais tout à l'heure. C'est... La difficulté de l'auteur-compositeur, c'est qu'il raconte un peu sa vie dans ses chansons. Alors après, oui. Tu te dis comment pas tout raconter, mais en raconter un peu quand même. Héros anonyme, ça parle de... En général, c'est un peu un hommage. Ça parle des gens qui vivent des grandes épreuves dans leur vie, parfois irrémédiables, qui leur arrivent du jour au lendemain et pour qui la vie change définitivement. Et puis qui gardent le même visage, qui essaient de garder le même sourire, qui continuent à aller au boulot, qui continuent à... Et en fait, moi, j'ai eu une épreuve comme ça assez dure. Et d'un coup, j'ai eu l'impression de passer de l'autre côté de la vitre, en fait, de l'autre côté du décor, comme si d'un coup, je faisais partie de ces gens-là. C'est comme si on passait dans un autre univers et qu'on réalise qu'en fait, il y a beaucoup de gens dans cet univers-là. C'est presque comme des fantômes, mais des... Et d'un coup, on comprend cette fameuse phrase qu'on nous dit depuis petit, la vie est dure. Tu dis, oui, bon, la vie est dure, oui, ça va.
Oui.
Et en fait, un jour, tu dis, ah oui, la vie est dure. Et voilà, c'est une chanson qui parle un peu, héros anonyme de tous ces gens. Il y a des gens qui sont extrêmement courageux, extrêmement dignes, admirables. Et pourtant, personne ne le sait, quoi, sauf leur entourage très proche, des gens qui portent des choses terribles, mais qui avancent, et qui sont vraiment des héros, en fait. Des héros anonymes, il y en a beaucoup. T'en es peut-être une, tu vois. Probablement, peut-être. On l'est tous un peu,
on l'est tous
plus
un
ou
peu.
Moins. Mais voilà, donc ça parle de ça, et voilà, moi, de mon expérience, enfin voilà.
Alors, on avait dit trois, une troisième.
Une troisième.
Parce qu'en plus, il y a des titres en espagnol. Alors, moi, comme je ne parle pas, enfin, j'apprends un petit peu l'espagnol à l'école. Mais...
Alors, en espagnol, La Guaira. Bah, La Guaira, bah, très simplement, c'est le nom du village
du
de
village.
Mon enfance.
Mmh.
C'est ce petit village après Portobello, qui est aussi un autre petit village, mais un petit peu plus grand, où à l'époque, la route s'arrêtait. Elle s'arrêtait à Portobello. Il fallait longer la côte par la mer pour rejoindre La Guaira. C'est là que mon père est arrivé dans les années fin 70. C'est là qu'il a fait sa cabane. Et c'est, voilà, c'est le paradis perdu. C'est la petite flamme qui ne meurt jamais, qui reste dans le tréfonds du cœur, ce village, ce mot, La Guaira. Voilà, donc La Guaira, c'est ce village. C'est ce paradis perdu qui change avec le temps, qui a beaucoup changé. C'est douloureux d'y retourner parfois, de voir comme le paysage change, comme ça perd un peu de son charme, parce que c'est comme ça, parce que tout perd de son charme, j'ai l'impression.
Mais parce qu'il y a des nouvelles constructions.
Parce qu'il y a de nouvelles constructions, oui, avec sans aucune règle, évidemment. Parce que la mer monte, et que les plages disparaissent un peu. Parce que forcément, ça se connecte au monde moderne, et que le monde moderne n'est pas toujours enrichissant. Donc c'est sûr que ça s'éloigne de plus en plus de ce qu'on a connu. Et pourtant, c'est un amour pour toujours. Donc,
oui.
Et puis les gens sont là-bas, quand on y retourne, ils sont toujours là, tels qu'ils sont. Enfin, encore une fois, il y en a qui s'en vont aussi, etc. Ouais. Mais voilà, La Guaira, c'est ça. C'est le paradis perdu qui prend des rides, mais qui reste sacré.
Et musicalement, tu as travaillé comment? Parce que c'est
sur l'enregistrement, tu veux dire?
Sur les musiques.
Eh bien,
est-ce que tu es du genre à tout préparer, bidouiller tout seul dans ton coin?
Non.
Ou est-ce que vous avez...
Pas du
tu
tout.
Tu travailles avec des musiciens en,
alors,
comme
en
ça
fait,
en
j'ai,
live
ou... J'ai presque tout fait. Alors évidemment, on a fait venir pas mal de musiciens. On a fait quelques morceaux en live, notamment au Panama. Mais mon acolyte vraiment avec qui j'ai tout construit, et j'ai vraiment de la chance de travailler avec lui, c'est Stan Neff.
Qui a travaillé avec plein de beaux monde, j'ai
ouais,
vu.
Oui, il a travaillé avec beaucoup de monde. C'est un mec brillant de ma génération. Et lui, il apporte vraiment... Moi, je ne suis pas, malheureusement, c'est quelque chose qui me manque, je pense, mais voilà.
Il a travaillé avec Camille, Vianney, Brigitte.
Oui. Voilà. Polo Henpan, voilà, enfin, plein de monde, Mélodie Gardot récemment, enfin, beaucoup de monde. On ne peut pas trouver grand-chose sur lui, je crois. Il est assez secret. Il aime bien ne rien raconter, du coup, c'est un peu... Bref, donc je vais le dévoiler, Stan Neff... Stan Neff, gendre idéal, grand garçon blond. Je ne sais pas s'il écoutera ça. Bref, et Stan Neff, avec lui, c'est une chance de travailler avec lui parce que c'est un peu, il m'apporte ce que je n'ai pas. Moi, j'ai un peu de mal avec les machines, toute la technique et tout ça. Et je ne sais pas si sûrement c'est quelque chose qui me manque. Après, bon, il y a toujours une contrepartie, un mal pour un bien. Mais du coup, je suis un peu à l'ancienne avec mon papier et mon crayon. Jusqu'à peu, j'étais toujours avec un papier et un crayon. Maintenant, je me sers enfin de Word, mais c'est pour te dire. Et du coup, contrairement à 95% des musiciens, je pense 99%, je n'ai pas de home studio où je m'enregistre, où je me maquette et tout. Alors, de temps en temps, je le fais et je me dis « Waouh, c'est génial !» Et il me viennent des bonnes idées, des trucs où je me dis que je devrais... Mais en fait, voilà, très peu. Et du coup, j'arrive surtout avec mes chansons en guitare-voix, avec l'idée que j'en ai, parce qu'on imagine des choses. Et puis une fois en studio, en fait, ce qu'on imaginait ne sonne pas comme on l'imaginait. Et puis finalement... Et du coup,
c'est comme le voyage.
Exactement. Et du coup, je fais tout avec Stan, voilà, qu'apporte évidemment l'aspect moderne aussi. Parce que moi, n'ayant pas d'home studio, ben, je ne teste pas les sons, je ne teste pas les beats et compagnie. Et du coup, il apporte vraiment toute cette touche-là, plus moderne, actuelle, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, c'est une complémentarité, vraiment. Donc on a beaucoup construit les morceaux à deux, et puis on a fait venir des instruments, des instrumentistes à droite à gauche, on a fait quelques morceaux en live. Entre Paris et Panama, on a travaillé à Panama, on a enregistré dans un studio à Panama, c'était une semaine assez extraordinaire, on a rigolé du matin au soir, on s'est tapé des barres de rire dingues, et on a rencontré des musiciens super, et on a ramené un peu, j'espère, de sable et de soleil panaméen, et Voilà.
Bon, en tout cas, ce son te va très bien, je trouve. Il y a quelque chose de très harmonieux qui sort de cet album.
Merci.
Très bel album, donc, qui sort le 26 mars chez Polydor. Le documentaire, vous chercherez sur le net, il arrivera à peu près en même temps, si j'ai bien compris.
C'est ça.
Ça s'intitule « Vivo en Panama », je te laisse le dire mieux que moi.
« Vivo en Panama ». Non, c'est pas mal, hein, tu peux le dire. Le dire à la française, c'est bien, « Vivo en Panama ».
Donc Mathieu, je te souhaite, déjà je te remercie de nous avoir raconté tout ça.
Merci à toi, vraiment merci de m'avoir reçu, ça me fait plaisir de partager ces anecdotes.
C'est bien intéressant, en plus ça nous change un peu les idées, ça fait voyager, ça amène un peu de bonnes ondes dans notre univers en ce moment qui en est un peu dépourvu, ou encore faut bien les chercher. Elles sont bien cachées, elles doivent être là, mais elles sont bien cachées.
Oui, il faut s'y accrocher.
Voilà, donc surtout, je te souhaite que, comme pour tous les artistes, le plus rapidement possible, tu puisses aller défendre tout ça sur scène.
Bien sûr.
On a hâte,
croise les doigts.
Oui, nous aussi, en tant que spectateurs, spectatrices, on a bien hâte de revoir tous les artistes qu'on aime sur scène. Mmh. Et puis surtout, d'entendre des albums qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'aller écouter sur scène, parce que c'est une autre dimension aussi.
Bien sûr, ouais.
Donc, voilà. Donc, je te souhaite tout ça.
Eh bien, mille merci.
Tout le meilleur pour ce bel album.
Merci.
Et puis surtout, qu'il y en ait beaucoup d'autres après, et beaucoup de scènes.
On espère. On est sur la lancée, on espère. En tout cas, on y travaille.
Bien. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.